bien chaud. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Lapin chaud est bel et bien en poste, est en studio. Le beau gros sourire, toi, qu'est-ce qui se passe ce matin?
Tu trouves que j'ai un beau gros sourire?
T'as-tu une belle vie, ouais?
Ben, j'ai une belle vie, je me sens marabout un matin. Je trouve ça trop que tu dises ça, mais tant mieux.
Ben, ta face n'est pas en accord avec l'intérieur de
toi-même. Ah, mais c'est parfait, ça. Ouais. Ben, je veux dire, la vie est belle. Là,
mais souvent, c'est le contraire. Tu sais, quand t'es pas de bonne humeur, quand t'es de bonne humeur, ta face le dit pas nécessairement.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Tu rentres à la job et... ça va? Ouais. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va.
Et hey, puis ça, quand tu te fais demander
de bureau
ça,
en bureau, puis là, tu faisais, il me semble que t'as pas l'air de bien aller. Ben là, sacrément.
Ben maintenant que tu m'en parles, tu sais, ça, là, maintenant, ça va plus tant que ça.
Ouais. C'est-tu le jour de paye, là?
Non, c'est pas jour de paye. Non, c'est la semaine prochaine. Ouais, ben pour certaines personnes, on n'est pas seul au monde, là. C'est sûrement jour de paye. 88-971-1021. Êtes-vous des dépensiers quand le jour de paye arrive ou. Vous payez vos affaires, vous mettez de côté, vous êtes tranquille. On dit qu'il y a une frénésie le jeudi de paye.
Moi, j'aimais beaucoup la paye à la semaine.
Ben moi, j'ai jamais eu ça. Sauf quand j'avais plusieurs jobs, mettons. Là. Mais j'ai jamais eu ça dans un emploi. Je trouve ça fantastique.
Mais la paye aux deux semaines, quand on a commencé ça au départ, j'ai eu de la misère à me gérer.
Hein? Ben, c'est tough.
Encore aujourd'hui, je pense que j'ai un peu de misère à me gérer.
Ben, moi, tu vois, le problème, c'était tout ce qui était paiement par mois. C'est comme si une paye sur deux, je me faisais saigner bien raide. Puis ouais. L'autre, je savais pas comment gérer. Avec le temps, j'ai appris à séparer mes paiements différemment. Moi, je trouvais ça intelligent de tout faire passer le premier. Dans ma tête, c'était plus simple.
Ouais.
C'était plus simple au niveau du calendrier, mais ça ne l'était pas en tout au niveau du portefeuille.
Là, 2-3 ans, je pensais que j'étais multimilliardaire. Puis j'étais au garage. Et finalement,
ouais.
Ils ont trouvé comme tous les problèmes possibles sur mon truck.
Puis ça t'a coûté une beurre.
Je le savais, mon truck a le cancer généralisé, pas pire. Fait que il me reste à changer une coupe de morceaux pour à peu près le laisser mourir de sa belle mort. Mais,
c'est lui que t'as actuellement, là?
Ouais, ouais, c'est ça. Et j'avais à peu près 2000$ de facture.
Ouch.
Puis là, le garagiste m'a dit « Ouais, tes pneus commencent à être usés, là, ça passera pas l'hiver, ces pneus-là. » Je suis entièrement d'accord avec vous. Je me demande comment j'ai fait pour passer l'hiver passé. Et moi, c'est des gros pneus surdimensionnés.
Oui, mais pourquoi t'achètes ça neuf?
La masculinité toxique, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça prend le look.
On parle d'un genre de 1500$, 2000$ de pneus que je vais devoir mettre là-dessus. Fait qu'à à peu près en 3 semaines, ça va m'avoir coûté 4000$. La voiture.
Oui, mais le magasin intelligemment.
Ça fait du mal sur le compte en banque.
Ben oui, ça fait du mal sur le compte en banque, c'est sûr. Mais rendu là, si ton truck est si vieux que ça, pourquoi tu ne fais pas juste le vendre puis t'en racheter un autre? T'as qu'à payer toutes ces réparations-là. Là.
Hey, sais-tu quoi? J'ai pas de paiement dans la vie. Moi, là, je me considère comme étant
t'es
l'homme.
T'es tellement comme mon chum,
le plus riche de la terre.
Ouais.
J'ai pas de paiement. Je dois rien à personne à part à la caisse des jardins pour ma maison. C'est tout.
Ma mère, elle disait ça. Si t'as pas de dette, t'es riche.
Oui, mais j'ai une dette, mais c'est une dette. Tu sais, c'est une dette. C'est pour payer ma maison.
Mais dans cette hypothèque-là, ouais, là, c'est.
Je m'excuserai, j'avais pas cet argent-là dans mon compte. j'ai cette dette-là.
Mais c'est pas pire, c'est juste ça.
De pas avoir de paiement de char, on dirait que ça fait du bien. Mais de l'autre côté, quand je vois des chums qui s'achètent des véhicules neufs, puis qui ont une paix d'esprit pendant quelques années avec leur véhicule neuf, t'as pas idée à quel point, des fois, je les
ça te travaille.
Oui, parce que moi, il faut tout le temps que je mette un petit peu d'argent à chaque année, c'est normal.
Oui, mais c'est un Wrangler que toi, c'est une Jeep.
Un Wrangler, oui.
Mais tu sais, rendu là, je veux dire, ça, c'est très populaire encore à ce jour-là. Pourquoi t'as vend juste pas un bon prix? Tu dis ce qui marche pas dessus. Il y a des acheteurs partout hein, pour les pièces et compagnie.
Moi, je fais quoi après?
Tu fais ça sur Marketplace, ben, avec le montant que toi, tu t'en rachètes un autre, plus récent, vieux, usagé, là. Mais je veux dire, le 2000 de plus que tu vas mettre, mettons, là, avec ton profit, puis ton... Ben, tu sais, au moins, si c'est un 2000, c'est un char qui est un peu plus neuf, puis tu auras peut-être un peu moins à entretenir. Tu n'auras pas de paiement de char pareil, là.
À chaque année, tu vas avoir... C'est des véhicules usagés, hein. Tu sais, mon véhicule, c'est un 2012, je pense. Fait que, tu sais, si je m'achète un 2014, 2016, 2018, je vais avoir quand même un peu d'argent à mettre chaque année. C'est tout à fait normal. C'est juste le fait de me sentir sans paiement. Qui aimerait heureux.
Mais non, mais ça,
sauf
je
que en trois semaines, ça va me coûter à peu près 4-5 000 piastres.
Oui, non, mais ça fait mal.
Ça
moi, tu vois, quand j'ai changé pour une auto usagée il y a une couple de mois, bon, là, je la paye encore par paiement, mais à l'intérieur de mon propre couple, là, parce que j'avais pas non plus l'argent pour acheter ce char-là cash. Mais tu sais, dans à peu près un an et demi, là, je devrais être bonne pour que ce char-là m'appartienne puis que j'en ai plus de paiement. Là. Mais quand je l'ai eu, première affaire qu'il a fallu que je fasse, moi, c'est changer tous les freins arrière, le disque et compagnie. Il n'y a plus rien qui marchait là-dedans. C'était épouvantable. Puis ça m'a coûté 1 000, là.
Ah, mais...
ça fait mal.
Tu sais, il y a des garagistes...
C'est confortable.
Quand tu as ton garagiste que tu sais qu'il t'arnaque pas, là, tu ne le perds pas.
C'est... Ah, mais moi, j'ai ça, je suis chanceuse.
T'as une fidélité envers ce garagiste-là. Là. Faut pas que tu le lâches. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'en ai un, je le lâcherai jamais jusqu'à temps qu'il meure.
Il est à 60. J'espère que... Okay.
Il est à 60.
Ça se passe encore relativement bien.
Ça fait à peu près 10 ans qu'il me dit qu'il va reprendre sa retraite cette année.
Hey, on a une couple de personnes par le texto qui sont là. Christian, Patrick, Dave, Maryse, Jean-Marie, salut, bon matin. Vous êtes dans l'open mic en passant. 88-971-1021 si vous voulez nous texter. Il y a le 780-1021 si vous voulez nous appeler. Et il y a le Twitch qui est toujours ouvert. C'est le twitch.tv, BLVD, barre en dessous FM. On est là... pas mal pendant une heure et demie, le son allumé pendant les pauses pour vous jaser du haut droit d'auteur sur la musique.
Jean qui dit « Salut Marceau, juste pour te consoler, je dois acheter des pneus pour cet hiver. Mon camion, c'est à peu près 10 000 piastres. »
Aïe, aïe. Ouais. Mais même ça, les pneus, marketplace.
Merci Jean, je vais bien dormir ce soir. Non, mais tu sais quoi? Avant, je le faisais parce que j'étais jeune et con, OK? J'essayais de sauver sur les pneus.
Oui, mais attends, les pneus, il y en a des vraiment bons, là.
Parfaitement d'accord avec toi. Il y en a des vraiment mauvais aussi. Puis là, à un moment donné, il y a un vieux garagiste qui est arrivé dans ma vie qui a dit « Yann, tu te rends-tu compte que c'est la seule chose qui tient sa route, ça, c'est tes pneus-là? » Depuis ce temps-là, depuis ce jour-là, surtout depuis que j'ai des enfants, j'ai commencé à être un peu plus conscient.
Tu les achètes neufs.
Mes parents pensaient pas que ça allait arriver à un moment donné, mais à un moment donné, je suis devenu conscient. Je me suis dit « Non, je vais acheter des bons pneus neufs adaptés à la conduite hivernale. »
Tu fais bien. Moi, je suis encore confiante. C'est peut-être parce que je suis jeune et fringante.
Ça coûte plus cher. Ben, c'est surtout que parce que si tu meurs, il n'y a personne qui dépend de toi.
Oui, bien, il y a ça aussi. Ben, mon chien, j'ai un golden qui serait bien triste.
Petit chum, il va rester avec ton chien. Tu sais.
Oui, c'est ça.
Mais le problème, c'est que quand tu as des enfants, tu peux plus partir.
Oui.
T'es poigné, c'est-tu.
C'est pas grave si je crève demain matin.
C'est ça. Bon son là-dessus.
Gros show. C'est un peu spécial. Ouais. On débattit un peu l'émission ce matin. On va aller rejoindre dans les prochaines minutes Jean-François Clich, qui est journaliste au Soleil depuis 2001.
Très hâte de jaser. Puis on va parler avec Gabardi aussi, qui va être avec nous, qui est proprio du Tonic. C'est fou à quel point ça bouge à Québec très tôt. Je suis allé au gym hier et avant-hier. 6 heures au lever.
6 heures. Il y a du monde, hein?
Il y avait à peu près 200 personnes dans le gym.
Moi, je m'en vais.
Je suis dans la portion un peu plus relaxe, mais ceux qui bougent beaucoup, là, Tonic, là, CrossFit et tout ça, c'est malade à quel point ça bouge. J'ai vu le gars machin être un com. Comme on vous l'a dit, on a un gros show aujourd'hui, puis ça va être très, très, très rapide, je vous le dis. On vous avait calé la shot comme quoi on allait recevoir Jean-François Clich du journal Le Soleil. Jeff Fortin va venir faire son tour en studio pour nous parler de son événement bénéfice. Et Gabriel Hardy, proprio du Tonic CrossFit, qui va être avec nous pour nous parler des parents modèles. Il est là, il est avec nous, c'est Jean-François Clich du Soleil. Merci beaucoup, Jean-François, d'être là.
Allô, bon matin.
Merci. Journaliste au Soleil, journaliste scientifique depuis combien d'années?
Ah, j'ai la grande peine de vous dire que ça fait à peu près 17-18 ans que je fais ça.
Est-ce que c'était ton objectif, toi, quand tu étais étudiant, de devenir journaliste scientifique?
Non, c'était pas mon objectif, mais c'est arrivé un peu par la force des choses, parce que la science m'intéressait, même si j'ai pas étudié là-dedans. Mais tu sais, j'avais fini par ne lire que des choses, des livres de science chez nous à la maison, parce que ça m'intéressait encore plus que les romans. Fait que c'est un peu comme ça qu'après ça, c'est arrivé. Là, j'ai fini par ne couvrir que des choses de science là, pour le soleil. Là.
Être dans le beat, exemple de la politique, que ce soit le municipal, provincial, fédéral, bon, on essaie le plus possible d'être factuel là, quand on est journaliste, c'est la job. On vit au rythme des politiciens. Toi, tu vis au rythme des choses qui te tombent sous la main. Parfois, ça doit être assez particulier, ton travail. Tu dois passer des heures et des heures à essayer de comprendre, tu sais, la théorie des cordes. Là. Mettons que quelqu'un t'explique la théorie des cordes. Tu sais, pour quelqu'un qui est non-initié, oh boy, t'essaies de lire ça, puis c'est incompréhensible. Toi, tu dois le vulgariser. Ça te prend-tu énormément d'heures, justement, à vulgariser toutes ces études-là qui ont été comparées par les pairs?
Oui, ça c'est effectivement, c'est des heures et des heures de travail et de lecture pour essayer de voir, tu sais, de un, est-ce que j'ai bien compris? Parce que des fois, c'est pas très compliqué, mais des fois, ça l'est. D'autres fois, ça l'est. De un, est-ce que j'ai bien compris? De deux, est-ce que les sources que j'ai consultées, est-ce que ça reflète bien dans l'ensemble l'opinion de la communauté scientifique, ou est-ce que c'est plus marginal, tu sais, puis fait que c'est, oui, effectivement, c'est des gros efforts de documentation tout le temps, mais je veux dire, c'est jusqu'à un certain point, c'est comme ça un peu dans tout, tu sais, dans toutes les sphères du journalisme, là. Je veux dire, je me souviens de certaines fois où j'avais été réquisitionné pour couvrir une campagne électorale, puis là, tout d'un coup, tu sais, j'étais complètement hors de mon champ de compétences ou d'expertise, parce que là, tu sais, je suis la politique, mais pas autant que tu sais, ceux qui sont affectés à l'Assemblée nationale. Fait que pour eux, c'était tout, tu sais, du déjà connu, du déjà su et tout. Moi, il fallait que, tu sais, je retourne lire tout le temps parce que je m'en souvenais plus. Il y a des affaires que ça faisait un an et demi qui s'était passé. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça pour dans toutes les sphères du journalisme, j'ai l'impression, là.
Dans le journalisme scientifique, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de fausseté à défaire des fois. T'sais, on dit tout le temps qu'il y a une étude pour aller de ton bord, puis une étude pour aller à l'inverse de toi aussi. Comment on gère les fausses nouvelles dans ce métier-là en 2024?
Ben, il faut, c'est un peu encore une fois le même principe que le journalisme en général. Il faut croiser les sources, d'une part. Mais d'autre part, il y a des, tu sais, comme tu dis, il y a des études qui tombent d'un bord ou de l'autre, mais ça ne veut pas dire que toutes les études sont égales non plus, tu sais. Si tu as une étude, par exemple, tu sais, qui, en médecine, mais qui porte sur 8 personnes, puis qui conclut blanc, puis qu'une autre étude conclut noir, mais qu'elle apportait sur 5 000 personnes, tu sais, ben elles sont pas les deux égales, là, tu sais. Fait que moi, après ça, comme journaliste scientifique, je peux pas les mettre sur un même pied, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que j'essaie de me dépatouiller là, dans tout ça.
Parfois, Jeff, bon, tu es confronté avec les lectures que tu as faites, que tu as vulgarisées, que tu as mis dans le soleil. Là, toi, c'est très factuel, c'est des études qui ont été comparées par les pairs. Tu sais que tu es très conscient que le travail que tu as fait, c'est un travail rigoureux. Et là, tu mets ça sur les internets, puis là, ça part sur la toile. Et là, tu dois confronter des gens qui ont des croyances. Et oui. Des fois, les gens qui ont des croyances, ils ont l'impression qu'avoir une croyance, c'est mieux que des études scientifiques. Ça a-tu été dur? Tu sais, le moment de la COVID pour toi, as-tu été menacé à un moment donné quand tu rapportais des faits plutôt que des croyances?
Menacé, non. Je me suis comme posé la question, est-ce que à certaines occasions, assez rare quand même, là, peut-être une fois ou deux, là, sur est-ce que, tu sais, ce que je viens de recevoir, est-ce que ça compte pour une menace? Puis je me souviens d'avoir même mis ça sur mon Twitter parce que je suis pas juriste, là, tu sais, fait que je me demandais qu'est-ce que je fais avec ça. C'était quelqu'un qui, sur un ton très agressif, m'avait écrit pour me dire, puis c'était de l'ordre de, tu sais, quand la population va réaliser quel genre de pourri que t'es, puis qu'est-ce qu'elle t'a fait, tu pourras plus te promener en sécurité dans la rue, là, t'sais. Fait que, t'sais, perso, bon, des insultes, j'en reçois, c'est jamais agréable, mais t'sais, tu finis par passer par-dessus. Mais ce genre de propos menaçant là, en tout cas, pour moi, c'est comme tolérance zéro, mais je savais pas, t'sais, si ça comptait pour une menace, là, t'sais, au sens de la loi. Fait que j'avais mis ça sur mon Twitter. Puis bon, certaines personnes, j'ai fini par même porter plainte parce que plusieurs personnes m'ont dit, Jean-François, prends pas de chance avec ça, porte plainte parce que d'une part, peut-être qu'il y a des menaces là-dedans, et d'autre part, si cette personne-là l'a fait à plusieurs autres journalistes, ben, il y a peut-être un pattern qui peut être intéressant là-dedans pour peut-être une enquête ou quelque chose comme ça, mais si tout le monde reste dans son coin en silence, ben, le pattern va jamais ressortir. T'sais. Fait que j'avais fait ça. Finalement, la police de Québec avait été extrêmement coopérative et compréhensible. C'était pas une menace, là, tu sais, au sens de la loi, mais ils avaient quand même pris contact avec cette personne-là pour lui dire, là, t'es comme dans une zone grise, là, faudrait comme faire attention, on vit dans une démocratie, tu sais. Et des journalistes qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent n'ont pas à subir ce genre de propos menaçants là, tu sais, ouais.
J'avais un collaborateur il y a quelques années que j'adore. Son nom, c'est Christian Page. C'est l'enquêteur du paranormal. Il a une approche un peu scientifique. Vous pouvez l'entendre au 98.5 Montréal. Et Christian, lui, il y a des sujets qu'il évite maintenant. Entre autres, le sujet des fameux chemtrails, là, parce qu'il a été tellement menacé concernant ces sujets-là à chaque fois qu'il en parlait. Même le 98.5, il avait payé un bodyguard pendant un certain temps parce qu'il y avait des gens qui voulaient s'en prendre à lui en raison du fait qu'il disait que c'était des traînées de condensation, donc des contrails. C'est des contrails, soit dit en passant, mais les gens pensaient plutôt que c'était des chemtrails, donc des gens qui libèrent du gaz dans l'air avec les avions. Puis là, ben ça leur a un effet de modifier ton comportement à toi, Audrey. Et Christian a dit, moi, j'en ai parlé pendant des années. J'ai dit c'était quoi? C'était des traînées de condensation, puis je me suis fait menacer pour ça. Maintenant, c'est terminé. Y a-tu des sujets, toi, Jean-François Clich, que tu évites de jaser en 2024?
Non. Je peux comprendre, t'sais, notre collègue qui évite ça maintenant. Ce genre d'autocensure-là, malheureusement, c'est une réaction qui quand même est normale, là, t'sais. Mais non, moi, je veux pas. J'essaie de jamais faire ça. J'en ai parlé justement des chemtrails. J'ai reçu, moi aussi, bon, des courriels et des réactions pas super agréables, parfois agressives, jamais de menaces, jamais jusque-là. Mais non, j'essaie de ne pas m'empêcher d'aborder un sujet, même si je sais que je vais me faire tomber dessus, tu sais, qu'ils vont me tomber dessus à 35, là, sur les réseaux sociaux.
Puis chapeau en passant, là.
Ben merci, mais c'est ça, on finit par se faire une carapace d'une part, mais d'autre part, une chose que pendant la pandémie, c'est comme une leçon que j'ai tirée de la pandémie, c'est que, tu sais, quand tu fais ta job comme du monde et que tu remets les choses, tu sais, remets les pendules à l'heure et tout, ben t'as pas juste des gens qui te tombent sur la tomate, là, tu sais, qui te tombent dessus, t'en as aussi qui voit ce que tu fais, puis qui voit l'importance de ce que tu fais, puis de l'importance d'avoir une, tu sais, de remettre les pendules à l'heure et d'avoir une vraie formation, et qui vont te féliciter, tu sais. Et une chose qui, je pense, est importante dans tout ça, c'est que, tu sais, le cerveau humain est ainsi fait, je pense que il est fait pour détecter, de faire plus attention à des menaces, tu sais, puis ce genre de choses-là, qu'à des compliments. Fait que, tu sais, quand tu es dans une situation comme celle-là, tu as un courriel positif qui t'arrive, mais ton cerveau dit non, non, tu sais, c'est pas important, ça, c'est la menace. Fais attention à ça, là, tu sais. Fait qu'il faut essayer de combattre ça, puis, tu sais, prendre le temps de les lire, ces courriels positifs-là, de leur répondre, de dire merci, ça fait plaisir dans le contexte actuel de polarisation et tout, tu sais, ça me touche vraiment, ça me fait du bien, bonne journée, tu sais. Puis quand tu fais ça, ben là, tu sais, comme, tu les laisses rentrer, puis ça dit pas mal le négatif après, là. Ça aide beaucoup.
Je sais, Jean-François, que tu as des enfants, toi aussi. Tout ce qui est réseaux sociaux, tu viens d'en glisser un mot. Tu sais, c'est quelque chose, là, autant pour les journalistes, mais pour la population. Il s'est passé plein d'affaires dans les dernières années. Tu sais, bon, Meta qui accepte plus les nouvelles sur les réseaux sociaux. Comment on peut intéresser nos enfants à la nouvelle, à la science? Bon, dans le cas de ce que toi, tu fais, les aider à démystifier aussi le vrai du faux. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui s'informent sur les TikTok de ce monde en ce moment, là.
Jean-François Clé, je vais-tu être sur TikTok bientôt?
Oh boy, ça je sais pas. Peut-être. Sur comment intéresser ses enfants à tout ça. Bon, là j'ai deux ados, bientôt trois à la maison. C'est sûr qu'à partir du moment où tu es leur papa puis que tu leur dis une chose, ben là le contraire semble être une bonne idée à leurs yeux. Fait que c'est probablement la première chose, c'est de ne pas être journaliste scientifique soi-même. C'est probablement le meilleur truc. Mais plus sérieusement, non, ben c'est ça, c'est juste moi je leur parle de ce que je fais. Eux, tu sais, souvent vont parler entre eux de ce qu'ils ont vu sur YouTube ou sur TikTok ou whatever. Puis là, ben c'est d'aborder la chose avec eux. T'es-tu sûr de ce que tu as dit? T'sais, puis c'est qui a dit ça? T'sais, essayer de les amener à se questionner sur justement faire une critique des sources, là. C'est qui cette personne-là qui avance ces idées-là? Est-ce qu'elle y connaît quelque chose? Sur quoi elle se base? Quel genre de fait qu'elle a énoncé? Fait que c'est ça, c'est de la sensibilisation comme ça, là, je pense que, en tout cas, que moi je fais, mais que je pense que pas mal tous les parents font aussi de manière générale.
Le sujet qui te fait le plus triper?
La microbiologie.
Ah ouais?
J'ai été, tu sais, je me suis plaint d'avoir fait que ça pendant toute la pandémie, mais dans le fond, tu sais, ça a toujours été la discipline scientifique qui m'a toujours le plus fasciné, même si elles sont pas mal toutes fascinantes, là, mais la microbio, ça a toujours été mon petit dada, là.
Qu'est-ce que tu réponds, Jean-François Clich, aux gens qui doutent peut-être encore de ta crédibilité aujourd'hui, malgré ton 20 quelques années d'expérience en journalisme? Tu disais que tu n'avais pas étudié là, niveau science. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
T'as-tu déjà reçu des chèques du gouvernement pour qu'ils te disent quoi dire?
Non, malheureusement. Et ni des grosses pharmaceutiques non plus.
Non,
J'attends toujours mon
il dit
premier chèque.
malheureusement.
Je fais tout ça gratis, imaginez. Mais non, ce que je leur dis, c'est ben, d'abord et avant tout, c'est que c'est pas mon avis à moi. Moi, je ne fais que répéter ce que mes sources disent. T'sais. Je choisis bien mes sources, ce qui demande du travail, mais je ne fais que répéter ce que mes sources disent. Et ces sources-là sont fiables, solides, savent de quoi ils parlent. Elles ont toutes les compétences et les connaissances qu'il faut. T'sais. Fait que sais, c'est. Bref, je leur dis pas explicitement qu'ils sont en train de tirer sur le messager, mais ça veut dire un peu ça, là, tu sais. C'est pas parce que moi, j'ai pas étudié en microbiologie que si je cite un microbiologiste, il devient moins crédible, tu sais.
Jean-François Cluche, je dois te laisser partir. J'ai déjà pris un petit peu plus de ton temps que prévu. Je sais que tu as une grosse journée. Un gros merci pour l'entrevue, puis ce sera un plaisir de t'en jaser prochainement.
Ben, j'espère bien. À bientôt. Bye
Merci,
bye.
bonne
Bonne journée.
journée.
Jean-François Cluche, journaliste scientifique du Soleil, à qui on avait le plaisir de jaser. Moi, c'est quelqu'un que je lis tout le temps.
Oui,
Chacun de
mais
ses papiers.
je sais que tu es fan quand même
Ouais,
du
ouais.
travail de cet homme-là.
Ben, moi, c'est mon dada. Si vous me suivez un peu sur Instagram ou sur Twitter, vous regardez ce que je suis, là. Je suis tout le temps dans des trucs scientifiques. Je mets beaucoup de niaiseries politiques et tout ça. C'est pas vraiment important, la politique, là. Mais pour le reste, là, j'adore tout ce qui se passe dans l'espace. La microbiologie, je capote. Un gars avec qui j'aimais jaser dans le temps, c'était Mark Hamilton.
Oui.
Je sais pas si tu as déjà jasé. C'est un
Non.
microbiologiste. Puis le gars a été surexploité pendant la pandémie, là, parce qu'il avait de grandes connaissances. Puis lui, il avait pas un discours qui était alarmiste constamment. Puis il était souvent beaucoup d'avance sur le gouvernement. Ce qu'il avait mis au point, lui, avec son entreprise, c'est... Il voulait aider le gouvernement à prédire il allait avoir combien de personnes dans les hôpitaux dans les prochaines semaines. Puis là, ben moi, je comprenais pas comment il pouvait faire. Et là, il m'avait dit, ben, on a développé avec des tests d'eau d'aqueduc. Fait que ce que tu envoies
Dans l'eau.
dans la toilette, là. Bon, ben lui, il prend ça, puis il est en mesure de dire, ben dans cette ville-là, il y a une augmentation de contamination de COVID,
Donc,
mettons.
les gens vont être un peu plus à l'hôpital les
Donc, dans
prochaines
deux,
semaines.
trois jours, il va peut-être y avoir un peu plus de monde à
C'est quand
l'hôpital.
même
Mais
autant.
imagine-toi si le gouvernement avait écouté un peu plus des gars comme Mark Hamilton, à quel point on aurait été capable de subvenir peut-être un peu plus aux besoins de la population à ce moment-là.
Ah, peut-être. Mais tu sais, c'est moi ce que je trouve fascinant avec la science, encore une fois, puis c'est ce que j'ai dit tantôt à Jean-François Clich, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'études scientifiques qui sont faites, puis il y en a tout le temps une pour en contredire une autre aussi, là. Mais je l'ai trouvé super intéressant, puis j'avais encore plein de questions. Fait que ça vaudrait peut-être la peine d'y rejaser
On
éventuellement.
avait 10 minutes aujourd'hui.
Je sais, puis nous autres, on essaie des fois d'aller à 30 avec certains invités. Je trouve ça dur de se ramasser dans ce temps-là.
Ben, c'est la vie.
Quand tu nous as dit à 20, là, faudrait qu'on soit parti, j'étais comme, oh, merde.
Ouais. Tu trouves ça dur de te ramasser? C'est un peu comme dans ton char, finalement.
Hey, c'est pas vrai. C'est plus vrai.
Tu t'es amélioré?
Je suis une nouvelle femme, Yann.
Tu passes la hausse maintenant?
Non, mais c'est dans mon char, c'est propre. Là, ça, c'est l'effet nouveau char. Reparle-moi dans un an, puis ça risque d'être
Tu passes
complètement bordélique.
Tu passes la hausse à pression, quoi?
Non, mais j'ai comme. Dans mon auto, en arrière, dans mon coffre, j'ai un sac avec plein de petits produits ménagers. Du petit push-push, puis des pour comme
Tu fais
laver
ça?
mon. Da oui, j'essaie de me garder propre. J'essaie vraiment fort.
Ouais. Mais pour en revenir au métier de Jean-François, parce que d'abord et avant tout, on voulait parler de l'individu, oui, mais de son métier de journaliste scientifique, ça a vraiment pas de l'air évident. Tu sais, pour avoir
non,
jasé avec
Les gens
Christian,
doivent te tester, là.
pour avoir jasé avec Christian pendant des années, les gens ont des croyances bien ancrées.
Mais je pense qu'il y a une différence, par exemple.
Puis quand, ben, à mes yeux, à moi, la science doit dominer sur les croyances. Okay? La science se remet constamment en doute. C'est pour ça que la science avance constamment. Quand il y a une hypothèse qui est avancée, puis on réussit à prouver que cette hypothèse-là est vraie, ben, on continue quand même de douter. On est encore sur les théories d'Einstein. On travaille encore à essayer de
Mais
prouver
c'est parce que
que...
les études sont faites sur des petits bassins de population aussi, tu sais, fait Tu peux toujours douter à quelque part d'une étude qui a été faite à quelque part dans le monde. Qui, t'sais, il y a toujours une étude pour contredire une étude.
Ouais, ben oui, mais des petites études gaga, je suis entièrement d'accord avec toi, mais des trucs qui touchent l'espace et tout ça.
Ah,
Les trous
ben là,
noirs, ça.
oui.
On est rendu loin, là.
Oui, ça a été prouvé.
Mais
puis,
toutes ces affaires-là sont constamment remises en
En
question. Il y
évolution
a
aussi.
toujours, toujours du développement puis de nouvelles connaissances qui arrivent. Moi, quand je lis ça le soir, je m'endors. C'est pour ça que je lis ça, là.
Mais
je
voyons.
me perds là-dedans. Ouais, tu liras sur
T'es
les
un
trous noirs.
passionné.
Ben oui. Tu sais, des possibilités qu'un jour, on puisse faire un voyage dans le temps, parce que j'ai jasé de ça en fin de semaine avec mon gars. Mon gars, il écoutait, je sais pas si c'est sur Crave ou sur Netflix, mais Retour vers le futur,
ouais.
avec Michael J. Fox. Tu as
déjà écouté
ça,
rendu sur
toi?
Netflix. Oui, j'ai déjà écouté ça, Retour
La
vers le
petite
futur.
mère, ouais. T'as déjà écouté ça?
Retour vers le futur. Oui, Netflix en ce
C'est
moment.
sur Netflix. Puis,
Prime aussi, si jamais.
D'ailleurs, ça me fait capoter à quel point Michael J. Fox, à cet âge-là, quand il a fait le film, ressemble à mon plus vieux à la maison, là.
Hein, pour vrai?
Au niveau du visage, là, il se ressemble beaucoup. Puis bon, ça parle de voyage dans le temps. Puis mon gars m'a demandé si c'était possible, les voyages dans le temps. Ben, si c'était possible, on le saurait, là.
Oui, mais ça va sûrement l'être éventuellement.
Ouais, mais il y aurait des modifications de l'histoire.
Oui.
Il y a des choses qui arrivent, qui étaient supposées d'arriver, qui ne sont jamais arrivées. On le saurait-tu? T'sais, c'est ça l'histoire. On le saurait-tu? Si quelqu'un avait réussi à retourner dans le temps pour tuer Hitler du temps où il y avait... Non, permettre à Hitler de rentrer dans son école des beaux-arts, il ne serait jamais devenu le Hitler qu'on connaît
aujourd'hui, tu as raison. Hey, c'est fucké, hein?
Oui.
Mais le pire, c'est que moi, c'est pas des... Tu sais, je sais que toi, tu tripes, là. J'ai jamais été naturellement vers ces lectures-là. Des fois, je trouve ça un peu fucké. Je trouve que ça... C'est comme tout ce qui est un peu surréel, tout ce qui est esprit, tout ce qui est plus grand que nous. Des fois, je suis comme... Hey, sais-tu quoi? Je suis bien dans...
Ouais. Moi, je suis pas dans ce qui est très
terrestre, là.
Moi, je suis pas dans le surréel. Je suis dans l'ancien.
Et pourtant...
Puis là, mon gars me dit, est-ce que c'est possible des voyages dans le temps? Ben ça va être un jour possible, mais tu pourras pas reculer de 20 ans, de 10 ans. Ça va être des millisecondes.
Hey, moi, je pense qu'il faudrait quasiment pas que ça soit possible.
Toi, tu l'empêcherais. Question d'éthique?
Ben non, mais imagine, s'il fallait tout le temps que tu aies dans le temps. Je sais pas, là, tu trompes ta blonde demain matin, tu vas retourner dans le temps, modifier tes agissements.
Ben oui.
Mais non, mais c'est-tu con?
Cacher tes
ben voyons
les
donc.
Traces.
Mais non, ça aide le monde malfaisant, ces affaires-là. Ça marche pas. Ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux de ta vie de toute manière sans te poser aucune question morale parce que tu vas aller modifier tes agissements. Non, ça marche pas.
Ouais. Moi, j'irais dans le futur, puis j'irais chercher comme l'almanach, là. Puis après ça, je reviendrai puis je gagerais ça. Ah, ça s'est déjà fait. Ça, dans Retour vers le futur.
Ouais.
Je sais pas, c'est trop lequel. Mais sérieux, quand tu parles avec des journalistes scientifiques ou avec Christian Page, un jour, tu as la chance de jaser avec Christian Page, justement, sur ce qui se passe en l'air, là,
ouais.
Dans l'espace. C'est hallucinant.
Ben écoute.
Les gens qui ont calculé le départ de la Terre jusqu'à l'atterrissage lunaire. Ils se sont pratiquement pas trompés.
Mais je suis vraiment pas éduquée à ce niveau-là. Fait que ça vaudrait peut-être la peine à un moment donné de recevoir plus d'invités qui nous parlent de ça. Si vous l'avez, l'intérêt en passant 88-971-1021. C'est comme si tout ce qui est très, très scientifique puis tout ce qui fait partie de l'espace, je m'y suis jamais vraiment attardée pour être vraiment très honnête avec toi. Fait que, mais oui, l'intérêt est là. Mais je sais pas dans mes plus grandes lectures quotidiennes.
Mais
fait qu'on s'éduquera.
Lis ça avant de dormir, tu vas voir.
Ouais, mais ça a l'air un peu fucké. Je sais pas si ça me tente. Je me pose beaucoup de questions. Moi, hein? Si je commence à ouvrir ce panneau-là... Là...
Hier soir, avant de me coucher, j'étais dans un trou noir. Là.
Oui.
Les trous noirs de l'espace.
Puis qu'est-ce que ça t'a dit? Là? Qu'est-ce que t'as appris?
Il faudrait que je me rappelle mes lectures. Je me suis endormi. J'étais endormi avec mon livre d'en face.
Mais là, ça t'intéresse-tu tant que ça?
Ben oui, ça m'intéresse.
Il lit ça pour s'emmerder, tu sais.
Les Quickie News de Max, à l'instant. Vous êtes dans l'open mic. Merci d'être là, Audrey, qui dit « Je me sens défocusé aujourd'hui. » C'est pas grave. Je me sens de même, moi. 365 jours par année,
puis
je passe au travail.
C'est tannant quand tu te sens un peu empoté, là. Ça te dérange pas, toi?
Non, c'est pas si pire.
J'ai comme le cerveau lame.
T'ouvres le piton, puis tu jases.
Oui, oui. Mais oui, mais ça vient avec, ça, par exemple. Je veux dire, quand t'es empoté, t'as pas nécessairement de la suite des idées non plus.
Non, mais c'est ça. Tu vis ma vie présentement.
Tu sais, tu parles, puis je défocus. je vois une mouche, puis je suis comme « Ah, une mouche! » Ça doit être dur d'être dans tes culottes.
Oui.
Ben, écoute, une journée, je suis déstabilisée.
Tu sais, parce qu'à notre époque, à l'époque de moi et Jeff, salut Jeff.
Salut.
Le TDAH, ça n'existait pas. Là.
Non.
Ouais, mais ils ne diagnostiquaient pas, t'as raison.
Peut-être, là, mais nous autres, on était juste des petits tannants.
Mais
il y avait. Si j'avais le malheur d'être dans la classe, j'étais tout le temps en arrière, là, ça ne tentait pas d'être proche du prof. J'étais capable de dormir quand
c'est
j'étais en arrière.
C'est trop cool.
Mais non, c'est juste. Mais s'il y avait le malheur d'avoir un écureuil qui passait au l'arbre, là, le prof me perdait pendant genre 20 minutes. Là.
Gros déficit d'attention.
Ouais, mais pourtant, je suis capable d'être hyper focus pour bien les affaires.
Moi, je vais vous le montrer que j'ai pas de déficit d'attention. Tu disais que c'était dur d'un culotte à Yannick?
Oui, c'est exactement
ça.
Ben oui.
Ouais, c'est ça. Hein.
Ça doit être dur d'être dans tes culottes, c'est ça que j'ai dit.
J'ai fait abstraction de ça.
Oui, mais là, toi, c'est pas, là.
Jeff!
Salut!
Lane Hudson, j'ai-tu hâte de le voir à Montréal? Il va-tu faire la saison au complet à Montréal?
Lane Hudson, ben oui.
Au complet?
Ah, convaincu. Mais ben, d'un, tu sais, il a tellement laissé une bonne impression à la fin de l'année dernière que ça prendrait un camp horrible pour qu'il commence pas l'année à Montréal. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il commence l'année à Montréal. Je m'attends à ce qu'il commence avec David Savard, comme on l'avait mis à la fin de l'année. À partir de là, ce gars-là a trop de talent pour descendre.
Parce que je l'ai vu sur la glace, là. Il était avec des joueurs professionnels, puis il mêle tout le monde.
C'est clair.
Les défenseurs sont les défenseurs de l'autre bord. Mm-hmm. Quand lui est à l'offensive, ils sont pas capables de le suivre par ses virements. Il vire d'un bord, vire de l'autre. Le gars pèse 160 livres. Il joue dans la Ligue nationale de hockey contre des gars qui peuvent atteindre quoi, 230, 245, mettons, certains défenseurs, là. 160? Yeah. Ça veut dire que tu
c'est
concèdes...
C'est beaucoup pour toi.
Ben, c'est 80 livres, des fois, de différence, ah oui, avec le plus gros défenseur l'autre bord. Puis c'est un défenseur,
fait qu'il est tout petit.
C'est un défenseur qui se porte à l'attaque. Mais il y a une vitesse incroyable. Ouais. Je ne sais pas s'il va passer l'année, mais j'ai peur des blessures en même temps.
En effet, mais ça, en même temps, je te dirais, Johnny Gaudreau est un petit joueur. Là, on va le nommer à cause des événements tragiques qui est arrivé, puis il a rarement été blessé, puis il joue à l'attaque contre des gros défenseurs.
Ouais.
Ça dépend toujours comment tu te comportes, comment tu as développé ton haut du corps. T'sais, dans le cas de Lane Hudson, moi, ce qui m'étonne des fois, c'est qu'on dirait qu'il a son... haut du corps est d'un côté, mais ses patins sont
de l'autre. Ouais. Mm. Je pense que c'est ça qui fourre les défenseurs.
Oui, puis sa protection de rondelle est écœurante comme ça parce qu'il y a toujours une hanche qui vient protéger justement la rondelle.
Ouais.
Fait que c'est sa façon de se démarquer en étant un petit joueur.
Écoute, je suis un peu positif en saison. C'est en série où les gars vont essayer de frapper cochon. Là.
C'est clair.
C'est là où ça va peut-être être un peu plus difficile pour lui les premières années, le temps qu'il réussisse à s'adapter puis réussir à se protéger comme du monde aussi.
Oui, puis surtout après les fights aussi où là, tu sais, ça commence toujours à jouer un petit peu plus rude également et tout ça, donc ça risque d'être un bon test pour lui, mais le gars a tellement de talent, faut que le Canadien le développe en haut, on peut pas l'envoyer à l'avant.
Très hâte que la saison du Canadien débute. Jeff Fortin qui est en studio, pas pour nous parler de sport, pour nous parler de son événement bénéfice. Parle-moi de ça, mon ami.
C'est demain au Patro Charlebourg, 19h, événement soirée 1-2-3 punk avec Reg Laplanche, donc c'est fort simple. Reg fait comme dans le temps de Musique Plus.
Il fait revivre Musique Plus.
Il fait revivre Musique Plus, il anime une soirée où, au lieu de recevoir des bands live, ben, ils nous présentent des vieux vidéos comme dans le temps de Musique Plus à l'écran, ponctués d'anecdotes à la Reg, parce qu'il a sûrement fait des tournées avec toutes les bands qu'il va nous mettre à l'écran pendant un an.
Il se prépare-tu d'avance où il retient toutes ces anecdotes-là? Parce que je les écoute la fin de semaine avec l'autre, là, Matt Marcotte.
Ben, il retient, ça vient tout seul. Il part dans le corridor d'un band. « Hey, mon Dieu, je me souviens la fois où même il part. »
J'ai pris un gin tonic, puis le gin tonic, il goûtait telle affaire.
Puis des fois, ces anecdotes sont comme pas nécessairement importantes, mais ça l'a marqué.
Ouais. Hein? Fait qu'il va nous raconter tout ça demain soir au Patro Laval, au Patro Charlebourg, 3e avenue S à Charlebourg, c'est à côté du cégep Limoilou, campus Charlebourg. Ça va être vraiment le fun.
Ben
il a déjà fait une playlist un petit peu plus générale que quand il va à d'autres endroits parce qu'ils écoutent, je sais qu'il va y avoir une gang de punk, mais il va y avoir aussi toute une gang qui est là pour le côté philanthropique. Il a rajouté un petit peu plus de punk ska. Moi, je suis tombé en amour avec le punk ska cet été.
T'aimes ça?
Hein, les cuivres. Ah, j'adore ça. C'est fou. Sublime with Rome à Rock La Cause était tout simplement extraordinaire. Planet Smashers au Red Bridge aussi. Donc, j'aime ça. Fait que Reg, il m'en a pimpé un peu.
J'aimerais juste savoir que tu nous rappelles pourquoi tu fais cet événement-là. Parce que, tu sais, on parle de ton événement, mais pour les gens qui ne savent pas à la base ce qu'est un fonds philanthropique, parce qu'on n'est pas nécessairement très, très bon de ça au Québec. Là. On ne parle pas beaucoup de philanthropie.
Non, en effet.
Là, moi, je veux dire, je savais ce qu'était la philanthropie, mais avant que toi, tu te lances là-dedans, j'en connaissais pas autant. Fait que peut-être juste ramener le pouls pour les gens, mettons, qui écoutent et qui n'ont aucune idée de quoi on parle en ce moment.
Avec plaisir. Écoute, j'ai lancé mon fonds philanthropique le 20 juin dernier ici en Onde. Un fonds philanthropique, c'est fort simple. C'est que je me suis associé à la Fondation Québec Philanthrope et j'ai créé mon propre fonds. Donc, de cette façon-là, ça me permet à chaque année de redonner dans la communauté, donc de redonner de l'argent à des organismes à but non lucratif. Dans mon cas, j'ai choisi deux causes. Fait que c'est pour ça, là, t'es demain, la soirée, 15$, Patro Charlebourg, ça inclut une consommation. Après ça, évidemment, mettons, on fait de l'argent un peu sur la vente de consommation, mais tout l'argent va dans le fond puis se retrouve aux organismes. Il y a 0% de cet argent-là qui se retrouve en administration. Fait que quand tu donnes 15$, c'est 15$ qui va se retrouver à des organismes. J'ai choisi deux causes. La cause du cancer, donc de donner des organismes qui aident les familles auxquelles un membre est malheureusement atteint du cancer, et la prévention du suicide. Puis pourquoi j'ai choisi le cancer? C'est parce que j'ai donné le nom du fonds à une de mes amies qui malheureusement est décédée le 5 mai dernier à 36 ans des suites d'un cancer du côlon. Donc c'est le fonds philanthropique Catherine Guillet. Catherine, dans les discussions que j'avais eues avec elle, malheureusement avant qu'elle décède, à un moment donné, elle m'avait lancé, elle dit « Moi, j'aurais aimé ça être immortel. Tu sais, comme ça, j'aurais pas à vivre ça. Puis, je serais pas à vivre ça à mes proches. » Puis elle écoutait beaucoup la chanson « Loud ». Immortel. Fait que d'ailleurs, on l'a fait jouer à ses funérailles. Puis Catherine, c'est une fille hyper impliquée dans sa communauté. Pour donner l'exemple, elle est venue faire les paniers de Noël avec moi au Patro Charlebourg l'hiver dernier, malgré le fait qu'elle était très malade, très démunie par la maladie. Fait que j'ai eu cette idée-là. J'ai dit, tiens, on va partir un fonds philanthropique, puis on va lui donner son nom. Puis quand je lui ai demandé la permission, elle était vraiment heureuse. Fait que c'est la façon de la garder en vie, puis la façon de la garder immortelle. Quoi,
c'est très cool. Je suis persuadé que ça l'a rassuré. Tu sais, j'avais une discussion l'autre jour avec un gars qui fait énormément d'argent. Il y a plusieurs entreprises à Québec. Il y en a à Montréal aussi. Puis on avait une discussion sur la mort parce qu'on avait quelqu'un en commun qui était décédé puis qu'on aimait bien. Puis il avait dit à la fin de sa vie, parce que lui aussi, c'était un cancer, il était décompté puis tout ça, il avait dit au gars à qui je parlais, tu sais, ce qui m'agace le plus, c'est que je laisse rien de concret si ce n'est que de l'argent. Mm-hmm. Il n'y avait pas de conjointe, il n'y avait pas d'enfant. Ses parents n'étaient plus dans le décor depuis des années, des années. Puis ils ont permis, à la fin de sa vie, de transférer son argent avec un notaire et tout ça dans un organisme qui va faire en sorte que ce gars-là, son nom va être nommé très souvent.
Ouais.
Ça l'avait comme un peu assoupi qu'on lui permette de faire ça. C'est weird, hein? On dirait que tu penses à ça juste à la fin de ta vie. Tu te dis, Chris, que c'est que j'ai fait de concret, moi,
que je vais laisser derrière moi, tu sais? Tu as parlé du cancer, mais il y a aussi la prévention du suicide.
Ouais,
tu vas bénéficier de ton...
Exactement,
c'est
la prévention du suicide. D'ailleurs, mardi prochain, c'est la journée mondiale de prévention du suicide. Autrement dit, on va en parler. On va recevoir justement la directrice générale du Centre de prévention du suicide à l'émission Rage Against le matin, dans le matin. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que, voilà 5 ans, j'ai eu des gros problèmes de santé mentale. J'ai fait une dépression majeur, j'ai eu des idées noires. Pour moi, c'est important de redonner à la cause puis de sauver des gens. Puis, en même temps, il y a comme une partie, il y a comme un double mandat dans ce fonds philanthropique-là. Moi, il y a une époque où je ne souhaitais plus vivre, puis Catherine a toujours eu un désir de vivre. Fait que de venir mixer ces deux histoires-là ensemble à travers le fonds, je trouve que ça fait plein de sens.
Tu vas... il va y avoir le côté 1, 2, 3 punk avec Reg, mais pendant la soirée, il va y avoir Rosemary McComo aussi qui va être là pour venir faire des tours.
Exactement. Rosemary McComo, chansonnière qu'on entend souvent à Reg Again ce matin, va être là pour nous faire deux sets de chansonniers. Donc, le party va lever avec Rosemary. Après ça, Reg va faire exploser le toit du gymnase. Donc, il y a de la bière de la Voix Maltée. Je remercie nos partenaires, la Voix Maltée qui va être là avec la bière, Cidrerie Milton avec des cidres. Puis, il y a également la distillerie des Appalaches qui va être là. Mes chums d'hockey vont faire des hot dogs pour tout le monde. Fait que on met tout ça pas cher. Là. La bière à 4 piastres, les hot dogs à 2 piastres. On prend le format Capitale de Québec. Ça marche, ils font des sold-out, les capitales.
C'est vrai, t'as raison.
J'ai dit, je vais y copier. Moi aussi, je vais mettre la bière à 4 piastres et le dog à 2 piastres.
L'argent va vraiment tout pour le fond, fait que ça fait du sens.
Fait qu'on répète en terminant, là, ça s'appelle la soirée 1, 2, 3 punk.
Oui, soirée 1, 2, 3 punk, Reg Laplanche, Patro Charlebourg, 19h. Possible d'aller vous acheter les billets en ligne. Vous allez sur la page Facebook du Fonds philanthropique Catherine Guillet. Sinon, vous payez à la porte tout simplement en arrivant. Puis c'est pour une bonne cause, ça va aller dans le fonds philanthropique.
Je te félicite, mon ami, de t'embarquer là-dedans.
Vraiment.
C'était le fun.
Le lien va être remis sur la page Facebook là, si vous voulez l'accès rapide. Là, fait que vous allez pouvoir les acheter là, directement. 15$, je trouve que c'est pas cher pour la soirée que vous allez avoir entre amis puis pour ce que ça peut donner pour les gens qui en ont besoin. Fait que chapeau.
Juste pour flatter l'avant-bras à Reg, ça va à peine 15$.
Ça va à peine, certain. Non, puis je suis pas
éditorié.
Je suis super touché, les parents Catherine vont être là, autant ce soir près d'au montage que vendredi, puis ils m'ont demandé qu'ils voulaient être à l'accueil, fait qu'ils veulent parler aux gens, voir les gens, fait que je trouve ça vraiment extraordinaire.
C'est
ouais.
Jeff, merci.
Fait plaisir.
Allez, bye bye, 10h49, on vient.
Marceau, le soir. Et Audrey Pinchot.
418-971-101, il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Vous avez des commentaires, même affaire par texto. Audrey?
Il y a un petit ralentissement si vous êtes sur Wilfrid Amel dans les deux directions à la hauteur là, de Laurentienne. D'ailleurs, Laurentienne-Sud, si vous allez prendre la bretelle pour la capitale direction ouest, il y a quelques problèmes dans ce coin-là aussi. Ça fait pas mal le tour en ce moment, évidemment. S'il y a quoi que ce soit, c'est le 418-971-101, texto.
T'as-tu vu dans les journaux de Québécois ce matin, Éric Lapointe qui refait la manchette.
Ouais.
J'ai l'impression que Québécois essaie de le restaurer un peu, de le réintégrer dans l'univers des médias. Ça fait.
Ben, c'est sûr qu'ils
ont été avec Sophie Durocher.
Oui, ça, c'était en début d'année, ça.
Ouais.
Ouais, effectivement. Ça avait fait pas mal jaser. C'est parce qu'il y a une question qui revient toujours. Tu sais, est-ce que tu juges l'artiste ou sa musique dans ces cas-là? Parce que vous rappelez qu'on a beaucoup abordé dans cette dite entrevue-là le volet judiciaire. Là.
Ouais.
C'est ce qui fait qu'Éric Lapointe est devenu un peu mouton noir taché, en fait, je vais dire, dans les dernières années. Là. Il avait été accusé voie de fait sur une femme. Là. Il me semble qu'il avait comme étranglé au cou. Il avait rentré dans une armoire de garde-manger.
Okay. Ben, je vais te conter la vraie histoire. Okay?
OK, toi, t'as la vérité.
Oui, j'ai la vérité. La soirée de sa fête, il y avait un gros party dans un bar, resto-bar. Il était avec sa conjointe à ce moment-là. Sa conjointe est allée se coucher plus tôt, donc elle est repartie à la maison. Lui a continué à faire le party.
Oui.
Et quand il est revenu à la maison, il est accompagné d'une autre personne de sexe féminin. Et quand il est rentré dans la maison, il est rentré avec cette personne-là, sans se douter que sa conjointe pouvait peut-être se réveiller. Sa conjointe s'est réveillée. Il y a eu une chicane. Il l'a pogné par la gorge. Elle a appelé la police. Et là, il y a eu des accusations contre Éric Lapointe. Et il a plaidé coupable. Voilà. Donc, c'est ça l'histoire.
Bien, on était à la même place. Fait qu'il a adossé finalement une femme contre le garde-manger. T'sais, c'est
exactement
un peu ça. Puis évidemment que dans toutes les entrevues qu'il a fait avec Sophie Durocher, t'sais, il disait qu'il condamne cette violence-là. Il aurait dû prendre sa guitare ce matin-là. Il n'aurait pas dû prendre de l'alcool, consommer. Mais ça a toujours été sa vie de consommer, Éric Lapointe. T'sais, il a été des 9-10 mois où il était capable d'arrêter puis il retombait.
Bien, tu sais, moi, je vais te dévoiler tout de suite mes cartes. Je n'ai pas de demi-mesure. Là. T'as fait ça à une femme, il n'y a pas de pardon. Pour moi, il n'y a pas de pardon. Fait que ta musique, tes demandes d'entrevue...
C'est bloqué.
N'importe quoi, c'est bloqué. Ça va être ça jusqu'à la fin de mes jours. Je suis mal fait demain. Malgré le fait que j'aimais la musique de Michael Jackson, ça ne joue plus chez nous. Parce que même s'il n'a jamais été déclaré coupable de quoi que ce soit, il a payé des gens pour qu'ils gardent le silence. Il dormait avec des enfants, avec la permission des parents de ces enfants-là. Il y avait quelque chose de particulier.
Fait que toi, c'est drastique, autant d'amour que tu as pour un artiste. Tu bloques ça complètement.
Exact. Puis je compare pas ce que Michael Jackson aurait fait versus ce que Éric Lapointe a fait. C'est pas la même affaire. Mais moi, quand c'est des choses que je juge inacceptables, c'est bloqué plus 100 ans. Mais Québécois semble vouloir le remettre dans l'aventure. Là, il a accordé une entrevue. Il disait « Ça fait 25 ans que j'essayais d'arrêter de boire. Et là, maintenant, je suis sobre depuis 11 mois. » C'est une belle entrevue, soit dit en passant. Là, il parle de cure de désintox, blablabla, blablabla. Tu sais, moi, j'ai plein d'empathie pour les gens qui ont des problèmes de boisson. J'ai côtoyé des gens qui avaient des problèmes de boisson. J'ai su comment faire pour aider ces gens-là, c'est-à-dire les laisser tomber le plus bas possible. Puis après ça, quand ils te demandent de l'aide, c'est de les aider. Mais de voir à quel point ces gens-là souffrent, t'as pas idée, Audrey.
Ah, mais honnêtement, quand cette entrevue-là, là, la première avec Sophie Durocher avait été télévisée, là, j'ai pas eu le choix de te dire que j'avais eu de la compassion. Là. Que t'aimes ou pas le gars pour le volet santé mentale derrière ça, pour le fait que ce gars-là ne s'aime pas du tout. Là. Tout ce qu'il y a dans la vie, c'est la scène, la musique, tu comprends, ses enfants. Mais il réalise pas par les problèmes de santé mentale tous les impacts que ça peut avoir. Puis, tu sais, il parlait de ses démarches, là, tu le crois-tu, tu le crois pas, ça appartient à tout le monde, rendu là, vous faites vos propres jugements, là. Mais j'avais de la compassion quand même. Puis je sais pas si le but, c'est de le remettre sur la map ou pas. T'sais, on en parle en ce moment d'Éric Lapointe parce que, je veux dire, il a lancé en septembre 2023 son dernier album, là, Je marche dans ma vie. Il y a eu cette entrevue-là. Il est en spectacle à Québec, c'est après-demain. Il fait des tournées, mais il y a encore plein de villes à travers le Québec qui refusent complètement de l'accueillir dans des salles de spectacle ou dans des Saint-Jean, mettons, gratuites.
Mais ça, je trouve ça con un peu. Je veux dire, moi, c'est fini. Je n'irai pas à ces spectacles. Mais j'empêcherai pas le gars de gagner sa vie. Là. Il a le droit de faire des spectacles.
En même temps, si pour toi c'est fini dans tes valeurs, si demain matin tu as une salle de spectacle ou tu organises un événement pour la ville, tu vas le mettre sur ta programmation?
Non, ben non.
Ben, c'est un peu ça le point. Fait que ces gens-là qui n'ont plus de respect pour ce gars-là ne le mettent pas sur sa programmation.
Mais c'est pas ça qui est arrivé. Dans la dernière année, il a voulu faire un spectacle en plein air dans une ville, puis c'était la ville qui organisait la fête.
Oui.
Et là, les gens se sont plaints. Et après ça, ben, ils ont dû faire un événement privé où là, les gens devaient payer pour aller le voir. C'était à Victoriaville?
Oui.
Donc, tu as une meilleure mémoire que moi là-dessus. Mais moi, j'empêcherai jamais le gars de gagner sa vie. Il a le droit de gagner sa vie. Puis si vous tripez sur Éric Lapointe, vous avez le droit d'aller le voir. C'est juste que moi, de mon côté, Éric Lapointe, c'est fini.
Oui.
C'est fini. Puis pour avoir régulièrement jasé avec des alcooliques dans ma vie, tu sais, faut vraiment atteindre le bas fond avant que ces gens-là réussissent à se rebâtir.
Si moi, je suis un peu...
Il faut aller demander de l'aide, il faut travailler fort sur soi, il faut avoir beaucoup d'amour autour. des gens qui t'aiment, qui t'apprécient, qui sont prêts encore une fois à
te
laisser une millième chance parce qu'eux autres, ils mentent, là. Ouais. Ils veulent pas te faire de mal, mais ils te mentent constamment.
Et combien de fois il s'est mis en cure de désintox? Il a entrepris un cheminement thérapeutique? Tu sais, là, ça me fait rire parce que cet article-là, ce matin, m'a fait sourire par le 11 mois sobre. Mais je veux dire, il a toujours arrêté après 9, 10, 11 mois. Je souhaite que ça continue pour lui. Là. Tu sais, là, on nous explique qu'il met son énergie dans la musique puis dans la boxe. Puis tant mieux si c'est le cas pour ses enfants puis son entourage. Exact. Je le souhaite. Puis écoute, j'espère qu'il puisse continuer de vivre de sa passion parce que quand tu écoutais l'entrevue, ce que tu entendais, c'est qu'il vivait juste pour ça, la scène, que sans ça, pour lui, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça dur, pour vrai. Quand il y a eu toutes ces histoires-là puis qu'il a plaidé coupable, là, c'est le premier artiste que ça m'a frappé, en fait, puis que j'ai eu un dilemme moral parce que ça a toujours été facile pour moi de juger. Puis de dire, bon, Michael Jackson, justement, ben, je barre ça, j'aimais ce qu'il faisait, j'aimais sa musique, mais je veux dire, ça faisait pas partie à ce point-là de mon quotidien. Tandis qu'Éric Lapointe, c'est comme notre culture québécoise, ça fait partie de mon évolution personnelle aussi dans ma famille. Je veux dire, on les connaît tous les albums, là. On connaît toutes les tunes par cœur, on a joué du Éric Lapointe.
Je pense que je connais les 2-3 premiers albums, le reste, j'ai un peu décroché, mais les 2-3, ça avait frappé fort.
Bien, cet artiste-là, point, a frappé fort. C'est le premier artiste québécois francophone masculin à avoir franchi le cap du million d'exemplaires vendus au Québec. T'sais, je veux dire, ce gars-là est arrivé fort dans notre culture quand il est arrivé. Puis bien là, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui l'ont laissé tomber, puis avec raison, mais le dilemme moral, je le trouve intéressant dans la mesure où là, ben, je me fais un peu mettre personnellement le nez dans mon caca. T'sais, on a jasé de ça, l'espèce d'hypocrisie là, la semaine passée, puis je me sens un peu de même quand on parle d'Éric Lapointe parce que j'ai le jugement facile par rapport à n'importe quel artiste qui m'écœure, qui fait des affaires déplacées.
Mais la proximité fait que tu dis, ah ben on pourrait peut-être y laisser un autre chance.
Ah ben je le fais pas le pire, là. Ben, sauf quand je suis vraiment chaude, des fois à 2h du matin, je vais mettre n'importe quoi. Mais c'est comme un petit combat intérieur de te dire t'essaies d'être moral, fait que tu y donnes plus cette attention-là parce que tu le barres, mais c'est en même temps, t'as toujours tellement aimé son œuvre. Est-ce que tu dissocies l'œuvre de l'artiste ou pas?
Puis tu sais quoi? T'as une belle façon, là. Je te jugerai pas par la façon de réagir par rapport à ces artistes-là.
Ah, je me pose des questions.
Mais
en fait,
moi, j'essaie d'être conséquent avec moi-même.
Mais
si ce gars-là,
ça,
il a fait des gestes que je ne respecte pas, je triperai pas sur l'artiste. Parce que la personne,
son
c'est
œuvre
l'artiste
est salie.
Aussi.
Ouais.
Son œuvre n'est pas salie. Je l'évacue de ma vie, tout simplement. Ça ne joue plus chez nous.
Mais son œuvre est salie dans la mesure où tu n'écoutes plus sa musique. Ouais. Si tu étais capable de faire la distinction, tu l'écouterais pareil.
Mais jamais je ferais comme les citoyens qui ont porté plainte pour pas que la salle de spectacle ou la ville puisse accueillir cet artiste-là. Ouais. Les gens ont le droit de continuer de travailler puis de gagner leur vie. Puis ceux qui trippent encore sur Éric Lapointe ou qui trippent encore sur Michael Jackson, ils ont le droit d'aller voir Éric Lapointe puis d'écouter de la musique de Michael Jackson.
Il y a des gens que ce qu'ils vont faire souvent, c'est plus encourager au niveau du spectacle parce que là, c'est d'aller voir l'individu, tu sais, mais qui vont continuer d'écouter ce qui a été fait dans le passé. Je sais pas encore où me placer pour être vraiment très, très honnête, mais je trouve ça intéressant comme débat. Fait que il est de retour, il y a plein de projets qui s'en viennent pour le 30e anniversaire de son premier album Obsession. Fait que si jamais vous avez de l'intérêt des projets acoustiques puis tout qui s'en viennent dans les prochaines années, là, il est en show au Capitole après-demain.
OK, hey, on change complètement de sujet. Ça a frappé fort cette semaine. J'ai commencé à me lever un peu plus tôt pour être avec toi un peu plus tôt.
Oui.
Mais je me suis dit, je vais changer mon horaire puis je vais m'entraîner le matin. Mardi matin, je me suis ramassé au Tonic Gym, ce que j'appelle le Paladium, dans les
l'ancien
anciens...
L'ancien chalet, puis l'ancien Paladium.
L'ancien Paladium. Et j'arrive là, je me suis dit, il n'y aura pas un maudit chat. Puis finalement, il y a à peu près 200 personnes dans place qui font du CrossFit, puis d'autres activités où ça bouge en sacrifice.
Et moi, je me suis toujours entraîné le matin.
Fait que moi, je suis resté dans la petite salle pour les poids et haltères, là. Et je regardais les autres au travers de la ville, je me disais, mais je peux pas croire que ça bouge de même à Québec. Puis le propriétaire de la bâtisse du Tonic Gym est avec nous, Gabriel Hardy, un gars avec qui j'aime bien jaser. Salut Gabriel!
Ouais, ça va bien.
Ça bouge donc bien chez vous le matin de semaine, ça a donc bien de l'air entraînant.
Ben oui, les gens qui s'en vont travailler par la suite, des gens d'affaires, des professionnels, des médecins, des avocats viennent chez nous le matin pour se tenir en forme puis commencer la journée du bon pied avec une belle intensité.
Mais ça te surprend-tu de voir autant de monde s'entraîner le matin? Ça, mais le matin, on est un peu engourdi.
Mais au contraire.
Toi, t'es allumé comme un rond de poêle.
Ben, ça te réveille.
C'est vraiment des bonnes heures. C'est des très, très bonnes heures pour l'entraînement. Les gens qui viennent ici, eux autres, ça leur permet de justement commencer leur journée, d'être réveillés, de mettre ça aussi derrière eux. Parce que des fois, la journée à part, puis on le sait, une des premières choses que tu vas skipper ou tu vas laisser tomber quand tu es fatigué, c'est « Oh, demain le gym ». Quand tu commences ta journée avec ça, tu as le droit d'être fatigué le soir. Tu peux aller te coucher après. Ben, alors, yes.
Moi, je l'ai mis à mon horaire, fait que je m'oblige à le faire. Puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Je ne suis pas trop à moitié mort le soir. Là. C'est ce qui m'inquiétait le plus. Quand tu te lèves plus tôt, tu fais de l'activité physique plus tôt. Oui, ça te dynamise, puis tu es capable de faire ta belle journée. Mais quand il est 19h le soir, puis tes yeux commencent à clignoter, ça commence à m'inquiéter.
J'ai l'impression que c'est un tout. T'sais, Gab, j'imagine aussi que si, mettons, Marceau s'entraîne le matin, il faut que tu ajustes ton alimentation aussi pour te donner l'énergie puis le fuel à travers tout ça, de balancer, j'imagine.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est un peu une croyance de penser que parce que je dépense de l'énergie, exemple, à l'entraînement, je vais en avoir moins dans ma journée.
Non.
Le corps, non seulement s'adapte, mais tu vas avoir même plus d'énergie. Alors, ceux qui sont, exemple, sédentaires et qui commencent à s'entraîner, là, peu importe l'heure de la journée, ton niveau d'énergie va augmenter, tu vas en avoir plus. L'autre chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est à cause des cycles circadiens, hein, qui sont les moments d'éveil de ton corps. Donc, c'est 3h et 11h après ton éveil que normalement, tu es à ton maximum. Mais quand tu t'entraînes le matin, tu es quand même dans la croissance, dans la courbe croissante vers l'éveil. Alors, tu es vraiment en train de stimuler ton corps, mais de l'autre côté, tu es dans un moment naturel où est-ce que ton corps est réveillé. Souvent, les gens, exemple, qui essaient de s'entraîner après midi, donc après leur dîner, sont dans la courbe descendante de leur énergie naturelle. Et là, des fois, l'entraînement devient un peu plus difficile, un peu plus lourd. Alors, non, l'entraînement le matin est vraiment hyper efficace.
Puis, c'est quoi ils font? Hein? Parce que là, je sais que chez toi, au Tonic Gym, tu as du CrossFit. Là, il y a une nouvelle affaire, c'est de l'Irox, c'est ça?
Irox, oui, Irox, c'est une compétition. Je dirais que c'est comme si le CrossFit avait eu un enfant avec le triathlon. Et là, ça donne ça. L'objectif du Irox, c'est d'avoir standardisé un entraînement. Comme un triathlon, tu sais exactement ce que tu vas faire en avance. Tu sais les distances, tu sais tout. Bien, IROX ont standardisé un entraînement qui devient le défi. Et là, les gens s'entraînent pour être capables d'aller relever ce défi-là. Que tu peux, écoute, il existe différentes versions en frais de longueur, un peu comme un triathlon. Tu sais, tu vas avoir des Ironman, mais tu vas aussi avoir le triathlon olympique, le sprint, un peu le même principe. Donc, IROX ont standardisé un entraînement qui est 8 étapes. Tu fais tout le temps 1 kilomètre de course. Et là, je parle du plein, là. 1 kilomètre de course entre chacune des étapes, c'est 8 exercices. Donc, tu cours 1 kilomètre, tu rentres, tu vas faire 1000 mètres de rameur. Tu cours 1 kilomètre, après ça, tu vas faire la sled. Tu cours 1 kilomètre et c'est tout le temps comme ça pour 8 étapes. Et là, il y a des championnats mondiaux, il y a des événements. C'est sponsorisé par Puma et par Red Bull. Et ils se promènent partout dans les villes. Ils font vraiment un gros power, un événement incroyable. Et là, c'est le nouveau mouvement. Les gens se mettent à faire ça. Il n'y a pas de charge excessivement lourde, il n'y a pas de mouvement complexe. Tu sais, des fois, le CrossFit, ça fait peur un peu à cause de ça. Parce que tu dis, bon, l'haltérophilie, il y en a qui marchent sur les mains, les pull-ups, affaires de même. Dans le IROC, c'est toutes des choses de la vie de tous les jours, en fait, que tu es capable de faire. Donc, tu vas avoir du carry, là, c'est-à-dire te promener avec des dumbbells dans tes mains. Tu vas avoir des lunges, tu vas avoir du rameur, du skieur, des choses qui sont simples à apprendre et que tu peux t'améliorer au travers du temps.
Okay.
Puis alors, ça pogne bien.
Le gros circuit, là, ça prend à peu près combien de temps? Mettons que je vais faire le gros circuit IROX.
Les meilleurs au monde le rentrent en dedans d'une heure, là, 54 minutes.
Défi accepté.
Oui,
on va essayer
de
faire ça.
Les meilleurs au monde. Tu sais, je te dirais que tu le rentrerais, là, pour vrai, quelqu'un qui ne fait pas la version pro, là, parce que la version pro, les poids sont un peu plus lourds. Tu sais, tes lunges, tu les fais avec un sac de 70 livres sur les épaules.
Sur les épaules. Okay.
Des choses comme ça. Ta sled est un peu plus lourde. Moi, j'en ai fait un officiel, un vrai à New York. J'ai fait celui aussi qu'on organise à mon gym. Ça m'a pris entre 1h20 et 1h30 faire le circuit.
Mais là, t'es-tu obligé d'être en forme, mettons? Parce que là, je t'entends parler là, des comparatifs de triathlon et compagnie pour dire que je me sens moins interpellé. Est-ce que n'importe qui peut essayer ça? Ou...
N'importe qui peut le faire. Puis c'est tout le temps, tu y vas à la mesure de ce que tu es capable. C'est-à-dire que si c'est ta première expérience, je ne te conseille pas de faire un full seul. Je te conseille de le faire en équipe. Puis je te conseille peut-être de commencer par un demi en équipe. Alors, au lieu de courir 1 kilomètre, tu vas courir 500 mètres. Mais tu vas le faire à 2. Fait que là, c'est plus encourageant. Fait que même si ça te prend 1h10, 1h20, passer à travers, tu es avec ton ami, tu fais l'effort en même temps, tu t'encourages. Puis ce qui est cool là-dedans, c'est toute l'atmosphère aussi autour. Les gens qui qui sont là pour te, t'sais, vraiment là, t'encourager à passer à travers ton épreuve, les coachs qui sont là pour te donner des conseils. C'est vraiment comme aller, exemple, faire ton premier 5 ou 10 km au Marathon bénévole de Québec. D'aller faire ton premier triathlon sprint qui va durer en bas d'une heure pour un triathlon sprint, puis de le vivre à ta mesure. Donc, il n'y a pas d'élitisme, hein, c'est vraiment accessible à tous.
Ah, puis l'effet, tu t'en parlais, l'effet de gang est immense, Audrey. T'sais, moi, là, je les ai vus s'entraîner mardi, c'est mardi matin que je suis allé. Je les ai vus s'entraîner, c'est à peu près 6h30. Ils sont une grosse gang qui ont l'air vraiment avoir du fun. Fait que, si
ah, mais les cours de groupe, c'est ce qu'il y a de plus motivant à la
base.
C'est ça. Là.
Fait que si tu te dis, ah, OK, ben, ça me tente un peu moins, je pense que quand tu vas arriver sur place, là, le beat va embarquer, puis let's go. Il y a quelque chose d'entraînant, tout le monde s'entraîne ensemble.
Oui, puis le fait aussi, tu sais, moi j'en parle souvent en entraînement. Ce que tu veux, c'est avoir un objectif qui est clair, qui est précis, mais qui a une date. Et ça, c'est vraiment un événement qui est vraiment en pleine montée mondiale que tu vas voir partout, un peu comme le CrossFit dans les années 2010-2014, tu sais, que c'était vraiment la grosse effervescence et tout ça. Donc, le IROC, c'est la prochaine affaire qui s'en vient. Mais c'est surtout que tu peux dire, hey, moi là, j'ai une date précise, comme là, on en a un qui est samedi de cette semaine au gym, le 7 septembre. On a 350 personnes qui viennent de partout au Québec le vivre. Hein. C'est le plus gros événement au Québec de IROCS. On a des gens de Montréal, on a des gens de Rivière-du-Loup, on a des gens de partout au Québec qui vont venir le vivre. Et pour ces gens-là, là, autant qu'ils fassent le plein, le full hein, ou qu'ils fassent le demi, il y avait une journée, il y avait une date, ils étaient avec leurs amis, puis ils se sont dit, hey, on se déplace cette journée-là, puis on va vivre l'événement. Et ça, c'est nous, c'est ça qu'on veut faire vivre ici, les gens qui se présentent, qui apprécient leur journée, puis qui se disent, waouh, j'ai le goût de le refaire, puis je vais m'améliorer la prochaine fois. Puis c'est exactement ça l'esprit derrière avoir une date puis un objectif en tête, c'est que tu alignes ton entraînement, tu sais que cette journée-là, tu es avec tes amis, tu invites ta famille à venir t'encourager, puis après ça, tu ressors de là en disant, ben sais-tu quoi, j'en refais un autre, puis je vais le faire plus vite ou je vais le faire ou je vais m'améliorer sur tel élément, puis ça te donne juste des objectifs pour rester accroché à ton entraînement puis rester actif physiquement dans la
puis
vie.
C'est gratuit, mettons, l'événement d'en fin de semaine?
Oui, moi, l'événement en fin de semaine, on l'a fait gratuit. C'est notre deuxième qu'on organise gratuitement pour faire connaître c'est quoi IROC, c'est quoi ce défi physique-là. Donc là, évidemment, à 2 jours de l'événement, là, les inscriptions sont closées parce que l'horaire de la journée est sorti. Mais on va en refaire un autre très rapidement, donc normalement au mois d'avril prochain. Et là, on veut passer à 1 000 participants. Puis c'est vraiment, honnêtement, c'est gratuit si vous voulez venir le voir aussi. Là, tu sais, comme venez voir l'événement samedi au Tonic. Vous allez voir, c'est hyper le fun. Il va y avoir un DJ sur place. On a Red Bull qui se déplace aussi. Il va y avoir des caméras, des drinks, toutes sortes de patentes. Fait que venez voir c'est quoi, puis vous allez voir que c'est très, très entraînant.
Ça bouge pas pire. Puis j'en jasais avec mes gars. Mes gars, ils savent que je m'entraîne chez vous, Gab. Et eux, ils ont déjà hâte de commencer. À quel âge que les enfants peuvent commencer à s'entraîner? Là, je leur fais faire un petit peu de jogging là, pour essayer de les motiver. J'essaie d'être un modèle pour eux autres, un modèle positif.
Oui.
Quel âge qu'ils commencent, ils peuvent commencer à s'entraîner là, pas de façon sérieuse, mais mettons, pour s'amuser, mettons.
L'entraînement, c'est vraiment spécial. On a tout le temps la perception que l'entraînement, tu sais, exemple, là, ça va couper ta croissance si tu t'entraînes trop jeune, des choses comme ça, qui sont des mythes qui sont totalement faux. L'entraînement, c'est aussi simple que de courir dehors. Les jeunes s'entraînent tout le temps. Ils font du sport, c'est de l'entraînement. Ils sautent partout. Tu sais, un jeune, ça va au parc, ça va dans les bars, monkey bar, ça saute en bas de la boîte, ça sprint. Ça, c'est de l'entraînement, là. C'est juste que nous autres, on le structure dans un gym différemment. Alors, un enfant, moi, j'ai des camps d'été ici, là, pendant longtemps que je fais ça. À partir de 6 ans, là, on recevait les jeunes, on les entraînait, puis on fait tout le côté moteur, tu sais, encadrement, développement des habitudes d'habileté motrice, la petite pliométrie, apprendre à courir, apprendre à sauter, apprendre à nager. Ça, c'est de l'entraînement. Ensuite de ça, ben, si tu parles vraiment de dire, bon, mais ben, un entraînement de force, à partir de quand, ou tu sais, de la musculation, à partir de quand quelqu'un peut commencer à faire ça, bien moi, je dis tout le temps, à partir du moment où est-ce que tu es assez sérieux pour être dans un environnement comme un gym, puis que tu es capable de te contrôler, puis tu ne te mettras pas à courir partout pour faire des folies, souvent, c'est 14 ans, tu sais.
Mais, ouais, mais c'est ça, il y a des règles, me semble, non?
Des règles par rapport...
Mais dans les centres de conditionnement physique, là, il me semble que c'était comme, c'est ça, 14 ans, si tu es accompagné d'un parent, puis 16 ans tout seul, ça se peut-tu?
Mais souvent, ça va avoir un lien avec tes assurances. Tes assurances te permettent d'avoir quel genre d'âge chez toi pour te permettre d'être assuré si jamais il y a un problème qui arrive. Moi, mes assurances ici me permettaient d'avoir des camps de jour à partir de 6 ans. Je les avais avertis, je leur avais expliqué. Mais proprement dit, l'entraînement... Parce que j'ai encore beaucoup de parents, moi, qui pensent qu'il ne faut pas s'entraîner quand tu es trop jeune en musculation parce que ça va stopper ta croissance. Et souvent, ce que je disais à ces parents-là, ben, je disais, écoutez, faites-les jouer au basket, les jeunes, parce qu'ils vont devenir super grands. Le basket, ça fait grandir. Regardez les NBA, ils sont tous très grands. On comprend, tu sais, que c'est une réputation que la musculation a là à cause, exemple, des haltérophiles, qui sont souvent des gens très courts et qui lèvent très pesant, ou les gymnastes qui font excessivement de volume, mais qui sont souvent très, très petits. Et là, on s'est dit, ah, ils s'entraînent tellement que ça fait stopper la croissance. Mais non, c'est parce qu'un gymnaste de 6 pieds 6, là, ça se voit pas parce que c'est ben trop long à tourner autour d'une barre, puis le bras de levier n'a pas rapport. Donc, il y a des sports qui sont avantagés quand tu es grand, donc au volleyball, au basketball, les gens sont plus grands. Puis il y a des sports olympiques qui sont avantagés quand tu es petit, l'haltérophilie, la gymnastique, des choses comme ça.
Mais ça se peut-il qu'il y ait une question d'encadrement aussi? T'sais, parce que quand je pense à ça, je me dis, tu sais, ces sports-là, tu es coaché. Je pense que le pourquoi on laisse pas rentrer les jeunes avant 14 ans dans les gyms, c'est parce qu'ils sont pas encadrés, puis il y a risque de blessure. Les physios vont souvent dire non, c'est pas bon avant 14 ans. Puis c'est par le fait que si tu te blesses à 10 ans fortement, bien, ça se peut que ça te suive une bonne partie de ta vie.
Le problème, tu le soulèves tellement bien, c'est qu'il n'y a pas de danger à faire de la musculation, peu importe ton âge, à partir du moment où est-ce que ton mouvement y est bien fait. Donc, si je me mets à vouloir mettre pesant puis que je me mets à tricher, là, ça peut être dangereux pour un adulte comme pour un enfant, puis l'enfant, tu ne veux vraiment pas parce qu'il est en croissance. Mais à partir du moment où est-ce qu'un jeune fait exactement le mouvement comme il doit être fait, la charge est très relative. Un jeune de 14 ans va peut-être lever 100 livres, puis l'autre, puis il n'y aura aucun problème, puis l'autre va lever 50 livres, puis il va être croche. Donc là, c'est là que tu amènes le point, est-ce que tu es bien encadré puis bien coaché dans ton entraînement? Et c'est pour ça que les gyms, pour la plupart, n'acceptent pas les jeunes en bas de 14 ans, parce que sinon, il faudrait vraiment qu'ils soient accompagnés. Par contre, moi, ce que j'aime, tu sais, puis Marceau, tu le présentes si bien, moi, je pense que les enfants ont tout intérêt et les parents ont tout intérêt aussi à démontrer à leurs enfants que moi, je m'entraîne, le gym, ça fait partie de ma vie, puis le gym, c'est pas une histoire de gros bras, c'est une histoire de santé. Puis que moi, à chaque fois qu'un parent amène son enfant ici, je suis content parce qu'il est témoin que le sport et l'activité physique, ce n'est pas juste pour les jeunes. Il est témoin de voir son père ou sa mère poursuivre un objectif et mettre les efforts physiques pour le faire. Et ça, je pense que c'est le plus bel exemple que notre société peut avoir.
Oui, puis je leur parle de longévité aussi. Je veux être le plus longtemps possible avec eux autres. Je veux les voir grandir. Je veux voir mes petits-enfants. Je veux peut-être voir mes arrière-petits-enfants. Puis je leur dis tout le temps, moi, je veux vivre le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle je m'entraîne. Puis je veux vous emmerder au moins jusqu'à 90 ans.
Mais c'est quoi, Gab, le rôle? En passant, on parle avec Gabriel Hardy, là, qui est propriétaire du Tonic Gym. Là. C'est quoi le rôle d'un parent? T'sais, parce qu'on entend tout le temps dans les statistiques que c'est donc important, justement, que les enfants bougent, soient en santé, qu'on les enlève des écrans. Bon, on connaît la chanson, là.
Ouais.
Mais est-ce que tu forces un peu ton enfant qui n'a pas d'intérêt à l'activité physique à essayer de pratiquer quelque chose? C'est quoi ton rôle comme parent?
J'ai deux réponses à ta question. La première, c'est que on a un rôle en tant que parent d'être un modèle et un exemple, et c'est démontrer que les enfants vont acquérir certains objectifs de vie ou certaines habitudes avant l'âge de 4 ans. Alors, si ton enfant ne te voit jamais bouger, hein, ben, il va avoir moins de chances de lui vouloir bouger plus vieux. Est-ce que ça veut dire que si tu fais juste l'inscrire à plein de cours, il va avoir cette habitude-là d'activité physique? La réponse est oui. Si tu lui fais faire plein d'activités physiques, ça va être bon pour lui. Mais moi, je crois que d'avoir des parents qui sont sédentaires, c'est très difficile pour le jeune quand il vient à l'âge de décider pour lui-même, de se dire « non, non, moi, je vais continuer à rester actif physiquement ». L'exemple qu'il a eu toute sa vie, c'est une personne, son père, sa mère, qui ne bouge pas. Fait qu'attends-toi pas à ce que ton enfant bouge. En fait, il y a moins de chances que ça arrive. Donc, je crois qu'il est un modèle d'activité physique, que le sport et bouger n'est pas juste dans un contexte de « ah, ben c'est parce que tu joues au hockey, ah, c'est parce que tu joues au football, et donc toi, tu fais du sport », mais à partir du moment où que le football n'est plus dans ta vie, le hockey n'est plus dans ta vie, le basket n'est plus dans ta vie, donc souvent après l'école secondaire ou, mettons, après le cégep, ben là, tu arrêtes de bouger dans le fond parce que c'était pour ton sport que tu le faisais. Donc ça, je pense que c'est un exemple hyper important. Et moi, quand je fais du lobbying gouvernemental, évidemment, la cassette est tout le temps la même. T'sais, ils vont nous dire, oui, mais on met l'argent pour les jeunes doivent bouger. Et moi, je dis tout le temps, oui, ben, parfait, là, mettez-la là. Par contre, les adultes aussi doivent bouger si vous voulez avoir une société en santé. Ça, c'est l'étape numéro un à ta question. L'étape numéro deux, c'est que tu veux essentiellement que tes jeunes touchent le plus possible à beaucoup de sports quand ils sont jeunes. Et les études sont très, très claires. L'approche multisport crée non seulement, si on regarde le côté élitiste, des athlètes plus complets, mais l'approche multisport crée aussi des individus qui vont rester engagés dans l'activité physique toute leur vie. Et ça, une étude excessivement claire a été faite sur un millier de jeunes qui étaient sport unique et un millier de jeunes qui étaient multisport. Et c'est vraiment le fun à voir, en fait, peut-être même un peu pas le fun, mais 70% des jeunes qui étaient multisports sont restés actifs le restant de leur vie. Et complètement l'inverse pour les uniques sports, c'est que ceux qui pratiquaient juste un sport jusqu'à après leur secondaire, 70% ont abandonné les saines habitudes de vie et la pratique d'activité physique parce qu'ils étaient vraiment reliés à seulement un sport. Donc, en tant que parent, qu'est-ce que tu veux si tu veux que ton jeune se développe de manière optimale? C'est le faire toucher le plus de sports possible. Évidemment, si tu veux que ce soit un first round NHL, ben, il y en a beaucoup qui se disent: Ah non, non, mon gars va juste jouer au hockey. Mais tu nuis au développement moteur de ton fils. Et au-delà de ça, tu nuis aussi au fait qu'il va rester actif physiquement le reste de ses jours, si tu es à sport unique jeune.
Gabardi, quand on va dans une salle d'entraînement pour aller faire du tonic CrossFit ou encore de l'Irox ou encore juste faire des poids et haltères, bon, il y a une facture qui vient avec ça. On donne plus d'1 milliard de dollars au système de santé québécois. Est-ce qu'un jour, pour justement le fait que je m'entraîne, que je défraie des coûts, je sors de l'argent de ma poche pour justement m'éloigner du système de santé, je vais-tu avoir un crédit d'impôt parce que je me tiens en santé? Ça va-tu arriver, ça, de notre vivant, nous autres?
C'est quelque chose sur lequel, vous le savez, là, moi je représente l'ensemble des gyms au Canada aussi au niveau du lobbying gouvernemental, au niveau fédéral, provincial et municipal. Ça fait partie des propositions qu'on dit, hein, le Fitness Tax Credit, le crédit d'impôt pour saines habitudes de vie. Je crois que c'est évident que c'est un motivateur et que c'est quelque chose qui devrait être un cadeau pour les gens qui décident d'investir en santé préventive. Un investissement de 500 $ par année en santé préventive fait sauver au gouvernement plus de 2 000 $ par année en frais de curatif. Alors, l'investissement est clair et efficace. Moi, je pense que les gouvernements, autant fédéral que provincial, devraient s'impliquer plus en santé préventive. C'est donnant de voir que, tu sais, au dernier budget fédéral, puis on le sait, là, les provinces sont allées au fédéral pour dire « Partagez-nous plus d'argent pour la santé », 0 $ a été mis en prévention. On est dans un système où est-ce que, pas dans un système, dans une société qui, on le sait, est vieillissante. On le sait, de plus en plus sédentaire. La semaine dernière, un article dans le journal démontrait qu'on arrive à un Canadien sur trois obèse. Là, présentement, on est là, là. L'obésité est le facteur numéro un. En fait, 50% des nouveaux cas de cancer ont un lien avec l'obésité. Donc, on le sait que ça prédomine sur les maladies chroniques et sur la mort des Canadiens. Et on investit 0 $ en santé, préventive. Donc là, tu as une population qui est vieillissante. Tu as du monde de plus en plus sédentaire. Tu as des jeunes de plus en plus devant les
Les
écrans.
urgences sont pleines.
Les urgences sont pleines, mais on attend que le monde soit malade. Il faudrait couper un peu pour que le monde soit moins malade pour être capable de
Ouais.
survivre à notre système de santé à long terme. Alors oui, pour répondre à ta question, il est plus que temps qu'on se réveille là-dessus.
Ben, quand tu es d'accord avec moi, je peux pas faire autrement que dire que tu as raison. Gabardi, merci.
Hey, merci à vous autres, c'est super le fun.
On s'en reprend.
On va aller te voir au tonic. Il reste encore de la place, là?
Venez-vous-en quand vous voulez. Le gym, il va être neuf en passant, peut-être annonce hâtive. Là, je ne l'ai pas mis encore sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Mais la première semaine du mois de novembre, je vide le gym et je le remplis d'équipements top of the notch 2025, la nouvelle gamme Matrix. On va devenir un centre, le plus beau centre au Québec à partir de la deuxième semaine de novembre. Ça va être incroyable.
T'as-tu embauché ton DJ, là? J'ai vu que tu avais fait une genre de cage de DJ en haut, là.
Ouais, les vendredis soirs, là, on est en train de travailler le concept, puis on va revenir au Palladium, mon cher.
Ah
On
oui,
va ramener
arrête!
DJ le vendredi, mais là, pour les saines habitudes de vie, fait que le monde, au lieu de sortir au bar, vont sortir au gym. Ça va être incroyable.
Bon, ben, je vais être à côté à ton bar pareil. T'as un beau petit bar à jus là, dans ton coin. Fait que je vais aller te
Oui,
voir.
un petit bar santé, un petit chèque de protéines à 10 h le soir.
C'est ça. Salut, Gabardi.
Salut, bonne journée.
Merci. Bye-bye. Gabardi, c'est le propriétaire du Tonic Gym. Un gars super sympathique à qui j'aime bien jaser. Puis sérieux, là, voir des bonhommes de 90 ans, 80 ans
C'est impressionnant.
s'entraîner au Tonic Gym, je me dis, c'est de même que je veux vieillir.
Oui, puis tu te reconnais
Hey, il
aussi,
faisait
hein? Il
des
y a quoi
redressements assis.
d'inspirant?
Je suis même pas capable d'en faire un.
Ah non, non.
Il y a 80 ans, il faisait des redressements assis. Pas comme un jeune de 25 ans, là, mais
Non, contrôlé,
il
puis
faisait des
ralenti.
redressements. Je trouvais ça exceptionnel.
Ah non,
C'est
il y a une
beau à
belle
voir.
clientèle, pour vrai.
Ouais. Hey, Audrey!
Hey, Yann!
C'est déjà fini.
C'est la fin!
Ça a bougé pas mal aujourd'hui.
Mais quand même, on se laisse de même, là.
On se laisse demain.
Drette sec.
Ouais. Ben,
OK.
aujourd'hui, il se laisse par texto, là. Nous autres,
Au moins, on le fait face à face.
on se laisse sur une toune.
Hey, à demain!
Des cow-boys fringants entre deux taxis sur les zones de boulevard. À demain, Audrey. Bye-bye.